Eh bien, chers amis, nous allons ouvrir notre Bible ce matin.
Alléluia, j'espère que vous êtes prêts pour la parole. Alléluia, vous savez, depuis quelque temps, donc, nous avons ouvert un nouveau cours, une fois par mois, le vendredi. Et vous avez pu le voir, il y a des affiches. Donc, une fois par mois, le vendredi, nous voulons partager, voilà, la parole de Dieu, mais nous voulons partager la vision de l'Église, afin que nous ayons tous et toutes un même but. C'est très important. Donc, nous avons commencé notre première soirée qui a été merveilleuse. Et donc, elle a été suivie d'un petit encas. Nous avons pu partager ensemble. Ça a été merveilleux. J'étais tellement heureuse de cette soirée. Et donc, cela s'appelle une vision, un objectif. Vous voyez, l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, nous avons besoin d'avoir et de connaître bien quelle est la vision de l'Église et quel est son objectif. Parce que ainsi, nous allons pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous. Et nous allons nous insérer dans cette vision. Nous allons travailler dans cette vision. Dieu va nous appeler ensemble à être actifs dans cette vision. Parce que sans objectif, on n'a pas de force, on tourne en rond, on ne sait pas où on va. Parce que le but de cela, c'est que Dieu veut nous équiper afin que nous soyons capables de servir. Le mot servir veut dire ministère, de faire le ministère. Qu'est-ce que ça veut dire faire le ministère? Ça veut dire apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter la libération aux âmes blessées autour de nous. C'est l'appel de l'Église. Ça nous concerne chacun, ça ne concerne pas que le pasteur. Ça concerne chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Alléluia. Vous vous rappelez de Éphésiens 4? Le Seigneur envoie établit des ministères afin que l'Église fasse l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'elle accomplisse les plans et les buts que Dieu a pour elle et qu'elle soit équipée de puissance. Alléluia. Équipée de puissance. C'est cela la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est qu'elle est appelée à gagner des âmes et à les équiper pour le ministère. Et ministère veut dire régler, libérer, aider aux problèmes des gens. Quand les gens viennent à l'Église, leurs problèmes doivent être résolus. Leurs besoins doivent être pourvus. C'est très très important. Les besoins doivent être pourvus. Et quand les besoins ne sont pas pourvus, les gens deviennent religieux. Ils vont à l'Église, ils rentrent, ils repartent, mais ils n'ont rien reçu. Mais l'Église a une mission. Chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et la vision de l'Église, c'est deux points, je le redis, je le répète. C'est premièrement gagner des âmes au travers de différentes façons. Vous savez, nous avons les groupes de maison qui sont très importants et je vous encourage à faire partie d'un groupe de maison parce que dans les groupes de maison, vous êtes édifiés, vous avez un message de la parole de Dieu et ensuite, vous pouvez prier, partager vos besoins et Dieu fait des miracles dans les groupes de maison. Alléluia, il vous éclaire, il vous apporte une parole et il vous édifie, il vous prépare à vous-même aussi, vous levez parce que le but des groupes de maison, c'est qu'ils se développent et que des hommes et des femmes se lèvent parmi ces groupes pour à leur tour se prendre leurs responsabilités. Donc ça prend du temps, mais c'est très important. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église, dans les groupes de maison? Eh bien, les gens commencent à être équipés. Ils comprennent que le Saint-Esprit est puissant et veut agir au travers d'eux, au travers d'elles, et libérer des miracles, des guérisons, des transformations, pour voir premièrement aux besoins de leur famille, mais pour voir aussi aux besoins de leurs voisins, des gens de notre connaissance. Vous savez, on ne peut pas gagner le monde en partant dans le monde entier, on peut gagner notre monde culturel dans lequel nous vivons, notre société. Notre vision, c'est de gagner Vichy et toute sa région. Nous avons vu vendredi que l'agglomération Vichy comporte 78 000 personnes. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que je ne sais pas combien il y a au Stade de France, on me disait. Hein, c'est 50 000 personnes au Stade de France? Non. 80 000. Bon, c'est toute l'évangélisation, l'agglomération Vichy. Mais on a du travail. Il y a du travail pour tout le monde. Regardez, l'agglomération Vichy, 78 000 personnes. Et ça se développe. Ça se développe. Hein, c'est pas en régression, c'est en progression. Alors c'est une bonne chose. Alléluia. Donc nous sommes là à Vichy, mais on a une vision. On veut gagner cette région pour Christ. Alléluia. Et Dieu va nous utiliser, nous préparer, nous équiper pour cela. Alléluia. Parce que vous savez, vous avez la vie éternelle. Mais tout le monde ne l'a pas. Jésus est venu. Alléluia. Et nous allons voir, si vous voulez, pour nous donner la vie éternelle. Et il veut la donner au travers de nous, à tous ceux auprès de qui nous vivons. On ne peut pas toucher le monde entier, mais on peut toucher notre famille. On peut amener à Christ nos voisins, nos amis, nos relations. Et je vous encourage à avoir des amis dans le monde. Non pas à être du monde, mais à aider des gens, à être en relation avec des gens qui n'ont pas Jésus. Vous voyez ? Parce que si vous vous fermez, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne pourrez jamais toucher les gens. Dieu nous appelle à avoir des relations dans notre monde. Pourquoi nous allons faire les courses, nous allons à Leclerc, nous allons à droite, à gauche, faisant des courses, nous voyons des gens. Nous avons des occasions de parler. N'hésitez pas, semez des bonnes paroles. Soyez vraiment des hommes et des femmes de relations. Ne vous coupez pas des gens. Parce que le Seigneur nous a dit à ses disciples, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Jésus n'était pas du monde, mais il était dans le monde. Jésus marchait constamment avec des gens qui l'entouraient, qui n'étaient pas des disciples, mais qui aimaient la parole, qui le suivaient. Tout le monde n'était pas des croyants, mais il le suivait. Jésus est allé vers ces gens, il allait dans leur maison, il n'hésitait pas à les rencontrer, il s'occupait pas de ce qu'ils faisaient, de leur vie, si elle était en règle ou pas en règle, ça lui était complètement égal. Il s'intéressait aux gens parce qu'il aimait les gens. Et je le répète, dans la vision de l'Église, nous pouvons demander à Dieu d'avoir plus d'amour pour les gens. Parce que vous voyez, dans Actes 2, 42, il est dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans l'enseignement des apôtres, et dans les prières. Mais la communion fraternelle, j'ai remarqué que ça peut être un piège quand on n'aime que ceux qui nous aiment. Alors on est bien dans l'Église, on se connaît, on s'aime. Mais Dieu nous a dit, c'est pas ça uniquement la communion fraternelle. La communion fraternelle doit s'étendre à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les gens qui viennent pour la première fois doivent sentir votre amour pour eux. Vous devez aimer les gens qui viennent dans votre église. Vous devez aimer les visiteurs. C'est eux qui sont importants. Vous voyez ? C'est bon et c'est nécessaire d'avoir la communion fraternelle. C'est une grâce que Dieu nous fait. L'église, eh bien, à cette grâce de recevoir cet amour qui s'appelle la communion fraternelle qu'on ne retrouve pas dans le monde. Vous allez pouvoir aller dans des clubs, dans tout ce que vous voulez, il y aura une bonne ambiance, une bonne émotion, mais la communion fraternelle ne se trouve que dans l'église locale, entre les chrétiens. C'est un lien de l'esprit. C'est quelque chose qui fait du bien. On s'aime, on pense aux uns aux autres. Quelquefois, Dieu nous réveille pour prier pour un frère, pour une sœur qui a un besoin. La communion fraternelle est active, mais Dieu nous rappelle que lorsqu'il y a des visiteurs, alléluia, dans l'église, des gens qui ne sont pas encore ancrés dans le Seigneur, manifestons notre amour. L'amour fraternel, c'est très important. Donc je voudrais vous parler un petit peu, nous allons voir ce que Jésus a dit en ce qui concerne l'église, pour que nous comprenions quelle est la valeur de l'église locale, la valeur d'être dans une église, pourquoi nous sommes là, la vision de l'église, quelle est-elle, quels sont les objectifs de l'église afin que j'y participe. Hein? Donc, regardons, premièrement, nous allons voir quelques points dans ce que Jésus a dit dans Matthieu 5. Alors, je les ai pas notés, j'ai donné quelques références bibliques à certaines personnes, mais ça, c'est... Malheureusement, je ne l'ai pas noté, mais je vous l'aurez pas dessus, mais ça fait rien. On va revenir quand même dans tout ça. Mais premièrement, Matthieu 5. Qu'est-ce que Jésus a dit sur l'Église? Vous voyez, Jésus a parlé de l'Église. Et nous avons un certain nombre de passages dans l'Écriture, on va prendre Matthieu, qui montre ce que Jésus a dit, la mission de l'Église, ce qu'est l'Église. Regardez dans Matthieu 5, le verset 13. Si je veux comprendre ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu pour le moment, ce que Jésus a dit, eh bien, je peux le découvrir dans l'Évangile. Et ce que Jésus a dit de moi, de vous, eh bien, c'est une réalité. C'est ça qui est vrai, c'est ça qui compte. Alors, dans le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia, voilà son Église. Son Église est le sel de la terre. Cette région... Parce que nous prions pour cette région, nous prions pour les entreprises, nous prions pour les familles, nous prions dans cette région ne peut qu'être bénie. Alléluia, parce que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par le monde, par les hommes. Ça veut dire le sel doit avoir de la saveur. Notre saveur, c'est le fait que nous libérons la parole, le fait que nous sommes chrétiens. Nous vivons en chrétiens, Nous sommes séparés de ce monde et nous vivons pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons du sel en nous-mêmes. Nous recevons la parole, nous adorons le Seigneur. Nous vivons comme des chrétiens. Alors nous avons du sel en nous-mêmes. Et le Seigneur dit, ne perdez pas ce sel. Parce que quand un chrétien, et nous allons en parler tout à l'heure, un chrétien perd le sel de sa vie, il devient comme les gens. Vous n'êtes pas comme les gens. Vous êtes différents. C'est pourquoi il y a des problèmes des fois. Vous n'êtes pas comme les gens du monde. Vous êtes chrétiens. Vous êtes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. Ensuite, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Et il dit, une ville cachée, donc la ville, c'est l'Église. Une ville située, pardon, sur une montagne ne peut rester cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui vont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes. Voilà ce que nous sommes. Pour Jésus, voilà ce qu'est l'Église. Vous êtes la lumière du monde. Le monde, c'est les gens qui ne sont pas croyants autour de vous. Alléluia. Que votre lumière brille. Que notre lumière brille. Que nous ayons de l'assurance dans notre témoignage. Que nous puissions tendre la main aux gens. Avoir de l'amitié pour les gens. Ne pas créer de problèmes, de disputes, d'histoires. Mais être conciliant, être sympathique. Avoir de la sympathie, être souriant, de la gentillesse. Alléluia, nous avons Christ en nous. Voilà ce que Jésus disait sur ce que nous sommes. Est-ce que vous le croyez? C'est l'Église. Matthieu 11 maintenant. Matthieu 11, versets 28 à 30. Alléluia. Venez à moi, dit Jésus. Alors là, il dit, voilà qui nous sommes. Et après, il dit, et ça c'est l'appel de l'Église. Vous pouvez dire aux gens, venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et le Seigneur va vous donner du repos. Regardez, lisez ce passage, c'est l'Église ici. Jésus parle de son Église et de sa mission, et de le fait qu'elle sert les gens. Nous sommes appelés à servir les gens. Vous avez suffisamment de lumière et de sel en vous-même pour servir les gens. Ça veut dire pour répondre à leurs besoins et les amener à Jésus. Il est dit, Jésus a dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans l'Église, on n'a pas un joug et un fardeau qui est lourd. L'Église appelle les gens à se consacrer, appelle les gens à s'engager, mais le fardeau de Jésus, il est doux, il est léger. Il est bon. C'est pourquoi vous voyez l'appel que Dieu donne à son Église, c'est d'appeler les gens à venir sous le joug de Jésus. Alléluia. Ça n'est pas un joug dur, parce que le monde, le joug du péché détruit et amène la mort. Mais le joug de Jésus, il donne la vie et il dirige. Dieu dirige avec douceur, avec sagesse, avec force, mais jamais par contrainte. Vous ne serez jamais contraint de faire quoi que ce soit. La vie chrétienne n'est jamais une contrainte, c'est un engagement. Un désir à servir, à aller de l'avant. Amen. Ça, vous avez l'Église. Là, dans ce passage, vous avez exactement ce que vous avez la capacité de faire, c'est d'amener les gens fatigués et chargés sous le joug du Seigneur. Alléluia. Regardez Matthieu 15, verset 16. L'Église est là dans Matthieu. Dans tous les évangiles, l'Église est là. Mais j'ai choisi uniquement Matthieu. Matthieu 15, verset 16. Matthieu 15, 16 à 20. Oui, Jésus avait donné une parabole et Pierre lui dit, mais qu'est-ce que c'est cette parabole? Je ne la comprends pas. Et il dit, ne comprenez-vous pas, au verset 17, que tout ce qui entre dans la bouche va dans les lieux secrets, dans le ventre, hein, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Donc le cœur de l'homme est souillé. Hein? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Jésus est venu pour laver les cœurs. Alléluia. Hein? Et le cœur de l'homme, eh bien, n'est pas pur. Et Jésus le dit, donc ça c'est une condition de l'humanité. Les gens autour de vous peuvent être très gentils, très bien. Vous pouvez dire, oh, ils ont une bonne situation, très bien. Leur cœur n'est pas dans la lumière. Même s'ils ont des bons sentiments. Et donc, ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de leur pensée et de leur cœur. Et Dieu dit, je suis venu pour changer les cœurs. Mon sang a la capacité de laver. Donc ça, c'est la condition humaine. Maintenant, regardez le Matthieu 22, verset 36. Voilà le commandement que Dieu nous demande, à nous, qui venons l'adorer et le célébrer. Et ça, c'est l'action de l'Église. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup de gens ici dans cette ville qui disent « Oh, on aime le Seigneur, on aime le Seigneur ». Mais le dimanche matin, on est dans notre lit, on s'occupe de notre maison, on fait nos petites popotes et on aime Dieu. Je pense qu'ils vont être surpris quand ils vont passer devant Jésus. Il y a des églises à Vichy, il y a des lieux pour adorer le Seigneur. Le dimanche, on ne doit pas se dire « Moi, j'ai travaillé toute la semaine et le dimanche, je reste chez moi ». Pour Dieu, c'est un blasphème. Cela n'honore pas Dieu, ça n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu dit dans sa parole, c'est venir célébrer le Seigneur. Je passais tout à l'heure à 9h30, je voyais tous les gens entrer dans les églises. Et je dis, mon Dieu, que c'est bien que si toute la population pouvait entrer dans les églises le dimanche matin. Et je voyais que des personnes âgées entraient dans ces églises. Je disais, Seigneur, amène les jeunes dans les églises. Ils vont changer le monde et la destinée de ce pays. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, aimer Dieu, c'est pas faire sa propre vie tranquille, non. J'ai dit, beaucoup vont être surpris. Nous passerons tous devant Dieu pour rendre compte de la vie que nous avons eue. On a des facilités ici. Vous savez, je vais souvent à Paris, je vois souvent ce qui se passe, les églises, l'église notamment de Paris Centre Chrétien, avec tous ces gens qui sont là, avec leurs petits-enfants, ils passent la journée dans l'église, qu'il fasse chaud ou pas, ils viennent du sud de Paris, ils viennent des fois de très loin. Ils ne se limitent pas en rien, ils aiment le Seigneur. Et je dis, il y en a d'autres ici, ils vont être surpris dans cette ville, parce qu'ils ne bougent pas d'un pas, et ils disent qu'ils aiment Dieu. Moi je dis, non, tu n'aimes pas Dieu, tu aimes ta propre vie. Or nous avons chanté tout à l'heure, tel que je suis, je viens à toi. Hein, tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi. Je viens, Seigneur. Il faut faire un pas vers Dieu. Je viens, Seigneur. Amen. Alors, regardez comment on aime Jésus. Regardez comme c'est important. Nous avons ce passage dans Matthieu 22, le passage 36 à 40. Le Seigneur dit, Maître, quelqu'un dit à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Et il va dire, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier commandement. Ça, c'est ce que nous vivons dans l'Église, c'est ce que nous vivons dans notre vie. Nous aimons le Seigneur. Et parce que j'aime le Seigneur, j'ai une vie concrète. Parce que l'amour est concret. Hein? L'amour, c'est pas j'aime et puis c'est tout. J'aime et je agis d'une façon concrète vis-à-vis de Dieu. Je fais ce qui lui est agréable. Parce que je l'aime, je veux lui plaire. Donc je fais quelque chose pour lui. Aimer, c'est faire quelque chose. Et il dit le deuxième commandement qui lui est égal, hein, c'est qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la mission de l'Église. Aimer Dieu, l'adorer, aimer notre prochain, servir notre prochain comme nous-mêmes. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ça, c'est l'Église qui vit cela. Alléluia. Et je voudrais que nous terminions avec Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, alléluia. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous libérer des problèmes de la vie, pour nous apporter une vie nouvelle. Revivre veut dire, ma mission c'est que je peux revivre. Je peux faire que les gens revivent. Je peux faire que les gens trouvent une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle dimension dans leur vie, une nouvelle vision. Alléluia. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ensuite, eh bien, Jésus reviendra. Alléluia. Donc, c'est l'appel de l'Église. Et donc, nous allons partager quelques points encore pour comprendre que l'Église, elle est dans le Nouveau Testament, elle est partout, Jésus en a parlé constamment. Mais il veut que nous ayons une bonne approche de l'Église. Lorsque nous allons à l'Église, lorsque nous faisons partie d'une Église, et il n'est pas question qu'un chrétien se dise chrétien sans appartenir à une Église. Quand on est chrétien, on appartient à une Église. On suit la famille, la famille locale. On a une vie de famille. Parce que le baptême d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est public toujours, le baptême d'eau. C'est dire, j'appartiens à Christ, je comprends son œuvre, je l'ai reçu, et devant la famille de Dieu, je témoigne de mon appartenance à la famille de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le baptême d'eau. Nous avons eu le plaisir de baptiser Céline il y a quelque temps. Elle avait amené toute sa famille, elle a témoigné de sa foi publiquement et devant vous, avec vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est public. Alléluia. Le fait que nous sommes chrétiens, le baptême d'eau, c'est public. Et l'Église, c'est une famille. Et on ne peut pas être chrétien sans appartenir à une famille. Sinon, ça n'existe pas. Vous savez, Dieu nous a créés pour être ensemble. Dieu veut que nous vivions ensemble. Dieu aime que nous soyons ensemble pour partager notre foi, pour nous encourager les uns les autres et pour aller de l'avant avec les missions que Dieu nous confie. Alors, c'est très important. Regardez dans 1 Timothée 3, verset 15. Qu'est-ce que l'Église? Alléluia. La valeur de l'Église. Combien c'est important d'être dans une Église. Parce que quand vous faites partie d'une Église, vous êtes sous la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une sécurité, une protection et une destinée qui prend place. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de destinée parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas de vie dans l'Église locale. Mais leur destinée prend place et racine dans l'Église locale. C'est là que Dieu dit, voilà les dons que tu as, voilà les talents que tu as. Voilà, tu dois recevoir de l'enseignement, tu dois recevoir la parole, tu dois être équipé. Voilà ce que je veux que tu fasses. Il y a des besoins de gens malades, il y a des besoins de toutes sortes. Voilà ce que je veux que tu aies. Je veux t'équiper surnaturellement. L'équipement surnaturel ne se passe que dans l'église locale. Je parle comme cela parce que dans cette ville de Vichy, depuis des années et des années, des esprits de rébellion contre l'église locale ont été libérés. Et tandis que je réalise combien l'église a été attaquée par tous ces esprits, beaucoup de gens viennent et reçoivent, et puis il y a toutes sortes d'influences mauvaises. Nous devons établir la vérité maintenant pour contrer ces esprits démoniaques, afin qu'ils sachent que l'église est stable, solide, établie sur un roc solide, avec vraiment une vision et un objectif saint que Dieu a mis en place. Et à partir de là, tandis que nous grandissons spirituellement, la croissance numérique suit, c'est obligatoire. Mais il faut premièrement que nous grandissions en tant que disciples, que nous apprenions à grandir ensemble au travers de la parole, au travers des actions, au travers de tout ce que l'Église offre, et que nous soyons partie prenante de ce qui se passe. Donc regardez dans 1 Timothée 3,15. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, tu dois savoir, il faut que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Voyez, là c'est une maison de Dieu, c'est une église locale. Il y a d'autres maisons de Dieu dans cette ville, qu'elles soient bénies. Ce sont des maisons où Dieu libère une parole, une vision, alléluia, communique quelque chose dans cette maison. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois savoir comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est quoi? C'est l'église du Dieu vivant, c'est l'église de Jésus-Christ, elle est le pilier. Voyez, ça n'est pas le gouvernement, le pilier. Ça n'est pas la sécurité sociale ou votre entreprise, quoi que ce soit, votre pilier de sécurité. C'est l'Église, parce que l'Église, elle est un pilier pour Dieu. Parce que dans l'Église, la parole est prêchée. La parole de vérité est prêchée sans compromis par des gens que Dieu a appelés, équipés, formés pour cela. Le pasteur, les pasteurs sont équipés pour cela. Un pasteur est équipé pour cela. Il a un don surnaturel. Et vous pouvez prendre de ce don. Parce que c'est un don qui équipe, mais c'est en même temps un don qui libère, qui apporte la paix, la sécurité, qui établit les choses. C'est très puissant le don du pasteur, le don pastoral, parce que c'est avec le pasteur qu'on passe alliance avec Dieu. C'est au travers du ministère pastoral qu'on vit sa vie d'alliance avec Dieu. C'est pas avec l'évangéliste qui passe, c'est pas avec le prophète qui passe, c'est pas avec les serviteurs de Dieu. Ils vont, ils viennent, ils repartent. Mais le pasteur, il reste toujours là. C'est lui qui a l'onction pour libérer la puissance sur la vie des gens. Alléluia. Au travers de la parole, parce qu'il conduit. Alléluia. Parce qu'il conduit. Il va quelque part, le pasteur. Il a une direction. Il reçoit une direction. Et quand je prêche maintenant sur l'église, afin que la vision de l'église soit bien établie dans votre cœur, je l'ai reçue de Dieu. C'est une vision que Dieu m'a donnée pour commencer à bâtir sérieusement afin qu'il y ait un développement au milieu de nous. Si nous n'avons pas une vision juste de l'église locale et que nous n'ayons pas les buts et les objectifs fixés clairement, nous ne ferons rien d'important. Nous nous réunirons le dimanche et puis c'est tout. Mais Dieu a dit non, il y a plus. Il va y avoir des choses, il faut participer. La vision de l'église, c'est de gagner et de former. De gagner et de former. Et de participer aux groupes de maison, parce que c'est la vision de notre église. Alléluia. De former à travers les groupes de maison, au travers de personnes qualifiées qui sont des responsables, oints par le Saint-Esprit, préparées, équipées pour donner la parole de Dieu et pour vous bénir. Alléluia. C'est la vision de votre église. Alléluia, qu'elle vienne dans votre cœur. Donc Jésus a dit cela, il a dit, l'église c'est le pilier. Mais c'est aussi le soutien de la vérité. Ça veut dire l'Église reçoit de Dieu, mais en même temps, elle tient pour Dieu. Vous voyez, c'est un soutien. La vérité a besoin d'être soutenue dans cette terre au travers de l'Église locale. Et vous voyez, tellement de mauvaises paroles j'ai entendues, moi, dans ma vie, tellement de choses mauvaises contre les Églises que Dieu a changé mon cœur. Je me suis repentie il y a longtemps de cela, parce qu'ici, il y avait tellement de choses qui allaient contre les Églises locales. Et c'est vrai qu'il y a eu des temps où il n'y avait pas de connaissance, où l'Église était plutôt traditionnelle et culpabilisait les gens. Mais Dieu m'a formé. Alléluia. Il m'a envoyé aux États-Unis. Il m'a formé avec le message de la foi à une époque où ça n'existait pas encore. Et j'ai pu libérer un certain nombre de livres, de connaissances et de ministères, puisque je suis allée beaucoup sous le ministère de Kenneth Hagin. Et là, j'ai pu changer ma façon de voir et comprendre que l'Église, elle est glorieuse. Alléluia. Chaque église locale est précieuse. Vous ne m'entendrez jamais dire un mot contre une église, quelle qu'elle soit, parce que Dieu travaille dans les églises. Il travaille dans les églises. Alléluia. Il œuvre. Et s'il y a même de la foi comme un petit lumignon, il soufflera dessus pour qu'il y ait un feu qui vienne. Alléluia. Dieu aime son église. Alléluia. Il nous aime. Alors, chers amis, je voudrais qu'on voit 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous allons le lire. Et c'est important. Mais auparavant, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, de l'esprit des Nicolaïtes. Vous dites, qu'est-ce que c'est que cela ? Non, je vais vous en parler parce que dans mon étude, je suis tombée là-dessus et j'ai dit, ça c'est très intéressant. Parce que Jésus, vous voyez, il y a une chose qu'il est, et oui, je dis bien ce mot, c'est l'œuvre des Nicolaïtes. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que cela ? Et pour cela, avant de lire les Corinthiens, nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse 2. Vous savez, dans Apocalypse 2, l'Apocalypse, le Seigneur parle aux églises. Il va parler premièrement à l'église d'Éphèse, parce que cette église a connu un réveil très très puissant. Vous savez, Éphèse, c'était la ville de l'idolâtrie, c'était la ville de tous les péchés, on peut dire, de tous les abus. L'apôtre Paul est venu. Il a transformé cette ville avec l'évangile de Christ. Et il y a une magnifique communauté chrétienne qui s'est formée à Éphèse. Et donc, vous voyez, là où le péché abonde, la grâce surabonde toujours. Et donc, il y a cette parole qui est donnée à l'Église. Et là, c'est l'Église d'Éphèse qui symbolise le réveil dans l'Église. Et Jésus va dire une chose à cette Église, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance ». Vous voyez, l'Église, eh bien, elle fait des œuvres. Elle travaille pour Dieu et elle persévère dans cette action. Et il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, mais que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la fin, lorsque le réveil se termine, les choses vont mal, hein. Ça c'était à une autre époque. Alors Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne repentes. Et pourtant, tu as ceci de formidable, hein, il veut dire, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai moi aussi. Alors, j'ai cherché les Nicolaïtes. Hein. Qu'est-ce que c'est que les Nicolaïtes ? Or, les Nicolaïtes, on peut dire que Jésus-là est leurs œuvres. Qu'est-ce que c'était que cette œuvre. Donc nous retrouvons ce passage dans Apocalypse et nous voyons que Jésus dit « Je hais les œuvres de ces gens-là, ces Nicolaïtes ». Donc le nom de Nicolaïte est dérivé du mot grec qui se dit Nikolaos. Donc Nikolaos se compose en deux mots, Nikos qui signifie conquérir et dominer, et Laos qui signifie peuple. Donc les Nicolaïtes, si vous voulez, avaient cette puissance de dominer les peuples. Comment est-ce qu'ils faisaient cela? Et donc, parce que ces deux mots peuvent être formés en un seul nom, qui se dit Nicolas, hein, qui signifie littéralement conquérir et soumettre les gens. Hein, c'est le sens. Mais vous voyez, Jésus dit, les Nicolaïtes sont des gens qui font des œuvres que je hais. Leurs œuvres sont mauvaises. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les grands leaders de l'Église primitive ont parlé, en ce qui concerne les Nicolaïtes, en pensant que c'était des descendants de Nicolas, qui est prosélyte d'Antioche. Si vous voulez regarder dans votre Bible, dans Actes 6, vous avez au verset 5, eh bien, l'appel des diacres. Et les apôtres disent, préparez des diacres, choisissez-les parmi des gens droits, honnêtes, remplis du Saint-Esprit, et lorsque vous les avez choisis, eh bien, amenez-les-nous, on va les bénir. Et donc, vous voyez au verset 5 de Actes 6, la parole plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, hein, vous savez. Ensuite Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnéos et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alors donc ces grands docteurs de la parole des premières années, puisque Jésus a tellement parlé contre les Nicolaïtes, ont réfléchi sur ce Nicolas, prosélyte d'Antioche. Qu'est-ce que ça veut dire? Prosélyte, ça veut dire qu'il s'est converti. Nicolas d'Antioche était un païen profondément engagé dans les sciences occultes. Le culte païen romain était profondément occulte, profondément magie noire, profondément obscur. Il était très engagé dans ce culte. Et Nicolas, ce prosélyte d'Antioche, de Actes 6, s'est converti au judaïsme. Donc toutes les personnes que vous voyez là, dans Actes 6, étaient des Hébreux, de pure lignée. Mais lui était le seul qui venait du monde païen et qui s'était converti au judaïsme, puisqu'on dit qu'il était prosélyte d'Antioche. Et donc on pense que cet homme, qui venait des milieux païens, était très ouvert à toutes sortes de philosophies, de religions. Il changeait facilement d'un côté et de l'autre. Vous voyez, de païen, il est devenu juif. Il a épousé la religion juive. Et voilà que de juif, il devient chrétien. Donc on voit que chez cet homme, il y a une ouverture à épouser toutes les religions. Et donc là, ils ne l'ont pas discerné dans les actes. Mais en fin de compte, cet homme a libéré une pensée qui a pris beaucoup de poids dans l'Église en disant « on n'a pas besoin de se séparer du monde, on n'a pas besoin d'arrêter les sciences occultes qui viennent de Rome, on a besoin simplement de se servir de tout ». Et il a commencé à libérer cet enseignement dans l'Église. Alors, vous savez que c'est contraire à la parole. Parce que nous sommes séparés du monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là pour bénir le monde, afin qu'il vienne à Christ, qu'il soit lavé, purifié de ses péchés, nettoyé comme nous l'avons été, afin de marcher pour Christ. Ce Nicolas-là, il a amené cette doctrine de dire aux gens non. Vous êtes là, vous pouvez participer à tous ces cultes, ça ne gêne pas. Vous pouvez être croyant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau de foi a complètement baissé. Les gens n'ont plus été libérés de leurs péchés. Ils ont dit, après tout, je peux vivre dans l'adultère, je peux vivre dans la fornication, je peux faire ce que je veux, je prends un petit peu de tout. Et voilà comment la société a été polluée. Et Jésus dit, ce que j'ai, c'est que je hais les Nicolaïtes, pas les Nicolaïtes, leurs œuvres. Parce que leurs œuvres ont amené un déclin dans l'Église. Vous me suivez? C'est pourquoi je veux vous dire combien c'est important que nous ayons la vision de l'Église nous-mêmes et comprenions la valeur de l'Église. Parce que lorsque vous lisez ces passages, vous comprenez que qu'est-ce qui va se passer après l'Église d'Éphèse? Vous avez l'Église de Smyrne. Cette Église va aller dans la persécution. Vous savez, pendant près de 10 ans, il va y avoir une terrible persécution à Rome contre les chrétiens. Mais à cause de cette doctrine, les chrétiens avaient perdu leur sel. Le sel nous donne de l'autorité contre le diable. Le sel nous donne de la force contre l'ennemi. Nous voyons clair, nous voyons les œuvres de l'ennemi, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les ténèbres. Nous les chassons, nous prenons autorité, nous marchons, nous avançons, nous libérons. Alléluia. Mais ils ont perdu ces choses parce que ils ont commencé à être comme le monde. Pareil, à toucher un petit peu à tout et à dire après tout, j'ai pas besoin de changer, je peux faire de la religion. Or, le christianisme, ça n'est pas cela. Vous me suivez? Et Jésus a dit non, les œuvres des Nicolaïtes, non. Ça n'est pas bon. Moi aussi, je suis pas d'accord. Amen. Donc, on voit que dès les premiers siècles, l'ennemi a utilisé des gens à un certain niveau pour polluer l'évangile et pour détourner les chrétiens. Et ça a été une doctrine qui a fait beaucoup de ravages. Et la Bible, il n'y a que dans l'Apocalypse que vous en entendrez parler. Mais vous pouvez la discerner dans votre société. Elle est également là. Vous pouvez la discerner dans la vie de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens et qui n'ont pas encore compris que c'était un engagement vis-à-vis de Jésus à vivre une vie sainte. Et vous savez, vivre une vie sainte, c'est puissant. C'est puissant. C'est pourquoi les œuvres des Nicolaïtes allaient contre cette vie-là. Et les gens n'avaient, disant, on n'a pas besoin de faire tous ces sacrifices, de changer de vie. On n'a pas besoin. On peut aller un petit peu partout. Et puis c'est tout. Il était comme ça, ce qu'on appelle un libre penseur, ce Nicolas. Alléluia. Et voyez ce qu'il a fait. Donc Jésus nous appelle, nous-mêmes, à veiller. Hein? À veiller et à comprendre notre appel. Lorsque les gens se convertissent, ils changent. Moi, quand je me suis convertie, j'ai changé ma vie. J'ai été folle d'amour pour Jésus. Je ne suis pas devenue parfaite du jour au lendemain, non, Dieu s'en fout, mais mon cœur était pour Jésus, à 100%. Et ça, vous voyez, une vraie conversion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses conversions. Les gens adhèrent. Vous chantez bien, vous dansez, vous louez Dieu. C'est merveilleux. Oh, j'aime bien cette église, j'adhère. Mais mon cœur n'est pas là-dedans. Et c'est un drame. C'est un drame. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses conversions. Je parle dans l'église globale, en général. Beaucoup de gens adhèrent, ils viennent à l'église, mais leur cœur n'est pas au Seigneur. Vous voyez? Votre cœur est au Seigneur, je le crois. Alléluia. Et Dieu vous appelle. Et Dieu m'appelle à comprendre que cette doctrine des Nicolaïtes, elle n'aura pas de place au milieu de nous. Parce que nous sommes le sel de la terre. Et nous ne perdrons pas notre saveur. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et que cette lumière ne peut rester cachée. Alléluia. Mais elle brille. Et tout le monde la voit. Alléluia. Alors, frères et sœurs, lisons maintenant ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 3. Verset 9. Alléluia. L'apôtre Paul dit, selon la grâce... Car, verset 9, oui, car nous sommes ouvriers avec Dieu, dit l'apôtre Paul. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'église est un édifice constitué de nous, de nos personnes, de chacun d'entre nous. Dieu bâtit son église. Hein. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est le fondement de notre foi et de notre enseignement, c'est la parole, c'est notre modèle. Nous sommes établis sur ce que Jésus a fait pour nous et notre vie est en lui. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement, on ne peut pas poser un autre salut. On ne peut pas poser un autre message que celui de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que la croix du calvaire pour accéder à Christ. Il n'y a que l'acceptation du sacrifice de Christ qui vous ouvre le ciel, alléluia, et qui vous permet de recevoir la vie éternelle. Donc on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses... ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée un jour. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, vous savez que nous, chrétiens, Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Ça veut dire que quand nous partons, quand nous quittons cette terre, nous comparaissons devant Jésus. Et là, c'est automatique. Tout ce que nous avons fait sur cette terre, eh bien, se manifeste. Nous allons voir notre vie devant Jésus. Et il est dit, vous voyez, vous avez intérêt, nous avons intérêt à bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça veut dire quoi? À bâtir, à faire votre meilleur pour Dieu. À vous consacrer au Seigneur. À être sérieux avec les choses de Dieu. Parce qu'ainsi, vous allez recevoir une récompense. Votre temps de prière, votre fidélité à l'église locale, votre attitude, le fait que vous parlez les bonnes choses, que vous pardonnez, que vous aimez, que vous témoignez, cela produit des récompenses dans le ciel. Beaucoup de récompenses. Mais si vous bâtissez avec du foin, ça veut dire si vous vous en fichez, si vous vivez pour vous-même, vous serez sauvés, mais comme au travers du feu, ça veut dire votre salut ne sera pas mis en cause. Mais vous n'aurez aucune récompense et vous aurez beaucoup de tristesse. Parce que c'est éternel après. Hein? On peut plus refaire. On peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi c'est important de communiquer la vision de l'Église. Que l'Église, c'est vraiment un lieu de valeur. Et c'est la colonne et l'appui de la vérité qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne l'intelligence pour dire « Ah, d'accord, Dieu, tu es ça, tu veux ça pour moi ». Je suis appelé à cela, l'Église a cette vocation, je participe. Vous voyez, petit à petit nous nous éclairons et petit à petit nos ténèbres, d'incompréhension partent parce que l'Église, elle apporte la parole. Alléluia. Et la parole, c'est la lumière. C'est pourquoi je suis éclairé, c'est pourquoi vous êtes éclairé. Et Dieu vous dit, bâtissez avec de bons matériaux précieux. C'est que votre vie a du prix. Si Jésus a du prix pour vous, si vous êtes conscient que vous avez la vie éternelle et que votre vie est bénie, bâtissez des bonnes choses avec Dieu. Faites votre meilleur. Je crois que c'est ça, bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. C'est faire notre meilleur pour Dieu. Alors, Dieu ne nous demande pas des grands sacrifices aujourd'hui. Il nous demande simplement d'être fidèles et de suivre sa marche. Alléluia. Mais voyez, quand nous bâtissons avec ces choses précieuses, avec notre cœur qui est dans une bonne attitude, nous préparons de grandes récompenses dans le ciel. Moi, je crois au ciel. Je crois à l'enfer aussi. Mais je crois au ciel. Je crois profondément que le ciel est réel et qu'il est tout près de nous. Je crois profondément que dans le ciel, eh bien, ce qu'il y a de magnifique sur cette terre n'est rien à côté de ce qu'il y a dans le ciel. À côté de la beauté de la nature. Vous savez, quand vous aimez la nature, quand vous voyez le soleil, quand vous voyez les matières, quand vous voyez le ciel, quand vous voyez même la nuit, tout éclairé. Un soir, je me rappelle, on s'est levé en plein milieu de la nuit avec Dorothée pour voir le ciel était éclairé de mille lumières. On voyait, on se disait, oh là là, la grande ours, la petite ours, le chariot, le grand chariot. C'était beau. On était dans l'adoration. C'est tellement beau, la nature. Vous savez, avant, quand j'étais pas chrétienne, j'avais peur de regarder le ciel. Je n'osais même pas le regarder tellement la nuit, ça me faisait peur. Mais là, on pouvait le regarder et dire, Seigneur, c'est tellement beau. Où es-tu? C'est toi qui as créé tout ça. Et t'es si proche de nous. Alléluia. Le ciel est réel, mes chers amis. Il est tout proche de nous. Il est tout proche de vous. Et il est beau, il est grandiose. Il est magnifique, il y a des jardins, l'herbe. Vous n'avez qu'à lire dans l'Apocalypse, il est marqué des portes en or, des rues. Dieu aime la beauté, Dieu aime les belles choses, l'or, l'argent, les choses précieuses, les perles, les bijoux. Tout ça, il y a tout ça au ciel en abondance. Il est dit que les pierres sont, les rues sont faites d'or. Lisez l'Apocalypse. Je sais que c'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, bâtissons avec du bon matériel. Bâtissons notre vie. Donnons-nous, faisons notre meilleur au Seigneur et méfions-nous des Nicolaïtes, de cet esprit qui dit non, t'as pas besoin. Mais pourquoi tu paierais ce prix? Pourquoi tu te consacrerais au Seigneur? Vis ta vie, fais comme les gens du monde, sois pareil qu'eux. Non, tu n'es pas pareil, Jésus l'a dit, ils ne sont pas du monde. Mes enfants me suivent, ils entendent ma voix. Il n'y a qu'un seul berger et un seul troupeau. Et nous suivons Jésus tous ensemble. Alors nous voulons remercier Dieu ce matin. J'espère que ça vous a béni. Alléluia, que ça vous encourage à continuer. Nous voulons continuer d'établir petit à petit dans nos cœurs la vision de l'Église, la valeur de l'Église, le prix que le Seigneur a payé pour son Église et surtout les objectifs de l'Église. Alléluia, car dans peu de temps, nous aurons un certain nombre d'activités pour évangéliser, bien sûr, et je vous encourage à continuer. Mais nous allons prier pour ce message et ensuite nous partagerons les annonces. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce message nous rappelle la valeur de l'Église. Seigneur, parce que nous sommes l'Église et que nous appartenons à une Église, nous sommes protégés, gardés, nous sommes en sécurité. Seigneur, les mauvais esprits, les séductions, les Nicolaïtes n'ont pas d'accès à notre cœur. Nous discernons ce qui est juste. Alléluia. Nous sommes en contact avec notre Père par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de vérité habite en nous. Et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, j'ai la pensée de Christ parce que je suis attaché à ta parole, Seigneur. Et ta parole m'éclaire jour après jour. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui marchent dans ta parole et qui grandissent dans les choses que tu as préparées pour eux. Seigneur, continue de les équiper et de les éclairer, de les encourager, afin que, Seigneur, ils marchent pour toi, mais qu'ils acceptent aussi de payer le prix, Seigneur, et d'agir selon ce que tu as pour eux dans leur vie. Bénis-les abondamment, Seigneur, et répands ta grâce et ta provision sur leur vie, la soif de Dieu, la soif de ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia.